France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esperza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui soulève des questions de son. Dernière étape de notre thématique sur la politique en cette période d'élection. Et on termine avec une figure majeure de la contre-culture, Frank Zappa, pourfendeur de l'institutionnel, titilleur de normes, broyeur de l'entendu. Pour évoquer son engagement politique, ses prises de position et son militantisme incessant, je reçois aujourd'hui Guy Darol, apôtre de l'homme oiseau. Auteur de nombreux livres sur la cause zappaïenne et d'une biographie sortie en 2016 chez Folio Biographie. L'occasion pour nous de dresser un portrait politique d'un génial thermomètre musical et social d'une Amérique bien pensante. Et comme chaque mardi, un son qui fait « Hey !» Le cri du patchwork, thème numéro 27, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine.
Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond.
Les interjections, tous ces petits mots comme que sais-je, une quantité astronomique de minuscules sons vocaux qui peuvent porter quantité de signification, comme le fait d'appeler par un simple hey. Comme ce fameux « Hey !» d'ouverture de One Step Beyond du groupe de ska anglais Madness. L'interjection fait partie intégrante du génome du ska, et ce depuis Prince Buster, auteur du premier One Step Beyond, au « Pick it up » et « Tchik tchik » se glissant dans le groove insensé de ce ska des origines datant de 1965.
« One Step Beyond !»
L'interjection dit des choses. Par son intonation, son volume d'exécution, elle nous raconte quelque chose. Gérard Griset, dans ses Chants de l'amour pour 12 voix mixtes et bandes magnétiques, joue avec des interjections suggestives de cet amour à la fois fantasmé et charnel. Des « ah », des « oh » qui s'entremêlent et se démêlent.
Ah!
L'interjection peut être cri ou soupir pour devenir signal. Eric Schwartz, dans son quatuor à cordes Thank a Ghost Story, demande aux instrumentistes de faire retentir des râles, des hurlements brefs, pour nous faire basculer d'une section à une autre de son œuvre, tout en leur conférant un rôle dramatique, où l'effroi, comme le frissonnement de sa musique, tout en formules brèves de cordes, sont soulignés par ses interjections tout en clameur. Autre interjection écrite et conscientisée par les interprètes et compositeurs, les interjections kakegoé du théâtre No. Ces célèbres râles gutturaux, ces cris suraigus, toujours associés à une forme de tambour bien spécifique. Le musicologue Akira Tamba souligne que ces interjections sont à la fois des objets sonores déterminés et assignés à des moments précis du discours, mais également des éléments soulignant le profil psychologique des personnages du théâtre No. Et c'est vrai qu'une interjection bien réalisée en dit souvent bien plus que de simples mots. Un simple cri en interjection peut traduire la détresse d'un musicien se battant avec son instrument. C'est le cas des « Ah !» de Jesty de Luciano Berio, composé pour la flûte à bec de Franz Brüggen en 1966. Le compositeur italien voulait montrer le combat entre la bouche et les doigts du musicien qui tenterait de se synchroniser au fur et à mesure de l'œuvre, jusqu'à émettre des interjections signifiant la difficulté de l'exercice anti-virtuose. L'interjection en pleine exécution peut aussi être tout simplement un encouragement, le signe d'une approbation, l'indice de la reconnaissance de ses pairs. Prenez le fameux « yeah » ô combien entendu dans le jazz, par exemple. Parfois, on a l'impression qu'il est totalement fabriqué ou machinal, mais il est bien souvent sincère et pousse le soliste à se surpasser comme dans ce solo de Lionel Hampton, ponctué de ci de là de « yeah » roboratif. Trouve ces interjections revigorantes et encourageantes dans quantité de cultures musicales, le flamenco par exemple, ou encore le pansori coréen. Dans cette forme vocale fascinante, le poème chanté par la voix de femme est accompagné d'un percussionniste, on pourrait dire minimal. Des frappes de tambour éparses, mais choisies finement, ponctuent la mélodie chantée, auxquelles s'adjoint des « et des « du percussionniste, à la fois maître et comparse de la vocaliste, pour à la fois approuver sa performance et construire un accompagnement bucco-percussif du meilleur effet. Ces interjections de pansori sont avant tout fonctionnelles, comme le sont les « ho » et « hu » des cochers. Ou encore ces formules d'éleveur de bœuf serbe, entrecoupant son chant de manière anarchique, semble-t-il. À moins que ce ne soit conscientisé, mais cela n'enlèverait rien à ce moment d'intime entre un homme et ses bêtes. Ou comment s'occuper de rappeler ou de faire avancer son bétail tout en entonnant un petit air.
Aşağı. Sus şimdi. Oho.
Drôle d'œuvre, exercice de style pour chœur de femme et piano, interjection de l'éminent musicologue Jacques Chaillet. On ne sait pas très bien si la pièce insolite tente de tourner en ridicule l'écriture vocale de l'avant-garde européenne, faite très souvent de phonèmes, de râles, d'interjections, en un mot. À l'image de Nouvelles Aventures, le chef-d'œuvre plein de borborygmes de Gheorghi Ligeti, ou comment faire de l'interjection décontextualisée le matériau unique d'une composition qui interpelle, c'est sûr. Ah !
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Guy de Harol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et journaliste pour Jazz Mag et Musique et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Frank Zappa et la cause zappaïenne. Et vous êtes l'auteur dernièrement d'une biographie éditée chez Folio Biographie autour de Frank Zappa, éditée donc en novembre 2016 dernier. Et dans cette biographie, on se rend compte que cet auteur incroyable, ce compositeur incroyable, qui peut être très complexe à première vue, est finalement très, il est intègre du début jusqu'à la fin de sa production, que ce soit musicalement, mais aussi idéologiquement. Et c'est de ça dont on va parler, c'est ce côté très politique du personnage que l'on rencontre dès ses premiers albums. Alors, est-ce qu'on peut utiliser, Guy de Harol, cette expression qu'il a lui-même créée, une forme de continuité conceptuelle et politique de la création zappaïenne?
Alors, continuité conceptuelle, c'est une locution qu'il invente pour attirer l'attention sur le fait que son œuvre doit être lu de manière à la fois unie et multiple, parce que il y a lien entre différents aspects, que ce soit les chansons, la musique, ses concerts, ses entretiens, ce qu'il donne dans la presse, à la télévision, à la radio, et y compris les pochettes. Tout fait un, One Size Fits All, n'est-ce pas, qui est le titre d'un de ses disques. Tout fait un et ne peut être véritablement compris que si l'on prête attention à l'ensemble des détails.
Et dans les détails, on trouve beaucoup de références à la politique actuelle, enfin de son temps, en Amérique en particulier, et dès son premier album, Freak Out, en 1966.
Absolument. Alors tout ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a chez lui une hostilité à ce qui est étranger, tout ce qui est hostile à l'étranger, à l'étrange, aux singularités, le révulse. Mais l'étranger, c'est la condition de son père, qui est venu de Partinico en Sicile au début du siècle dernier, et qui a été confronté au racisme de ses collègues lorsque, devenu enseignant de mathématiques, on lui a fait ressentir qu'un Sicilien était bon à rien, sinon à soulever des émeutes. Malgré ses efforts d'insertion jusqu'au refus de parler italien à la maison, Francesco, qui se fait appeler Francis, par souci d'adaptation aux mœurs américaines, témoigne du malheur de sa condition d'immigré. Et ça, ce sont des récits répétés à l'oreille de son fils qui vont fortifier chez lui l'idée que des expressions comme, par exemple, terre d'accueil, melting pot, sont peut-être usurpées. Et il faut dire, c'est un des premiers musiciens blancs à former des groupes multiethniques et aussi l'un des pionniers dans l'écriture de chansons dont on ne peut pas dire qu'elles soient engagées stricto sensu, mais ce sont des commentaires sur la société telle qu'elle est, telle qu'elle agit, en soumettant les esprits à ses idéaux, à ses volontés et finalement à son contrôle.
Et c'est le cas de Trouble Every Day, un morceau qu'on trouve donc chez Freak Out, ce double album un peu concept de 66, et qui renvoie aux émeutes de Watts en août 65, où il y a eu 34 morts, enfin des quantités d'arrestations, des émeutes qui ont duré plusieurs jours. Je vous propose de l'écouter pour voir comment il arrive à parler d'une actualité avec une musique qui pourrait sembler tout à fait légère.
Watching my TV, Check it out, the news, I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to prayer every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it. Cause baby, I don't need it. Take your TV tube and eat it. And all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know, I watch that rotten box until my head began to hurt. From checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. These times I may hear something would say, he wants to go and do you in, cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight.
Guy Darol, nous écoutions ici un extrait de Trouble Every Day de Frank Zappa et The Mothers of Invention, son groupe de l'époque. Nous sommes en juin 1966 et cette chanson fait référence aux émeutes de Watts en 1965, où il y a eu plusieurs morts, et puis on entend tout de suite une prise de position de Frank Zappa où il parle vraiment de cette incompréhension qu'il a, de cette différence entre blanc et noir, et il dit à un moment « Eh, vous savez les gars, je ne suis pas noir, mais il y a plein de fois où j'aurais aimé dire que je ne suis pas blanc ». Et c'est assez rare déjà à l'époque en 67 d'avoir une telle prise de position de la part d'un musicien, on va dire rock américain blanc.
Oui, alors tout ça résulte de ce que l'on disait précédemment et qui s'appuie justement sur son intention de construire une musique, certes à partir d'Edgar Varèse, mais aussi du répertoire de la musique noire et en particulier du rhythm and blues de Johnny Guitar Watson, dont on entend les notes tout au long de ce disque Freak Out. Mais ce qui attire l'attention en effet de ce disque, ce sont surtout les chansons qui sont des charges contre l'American Way of Life et son mode de vie, fondé sur le consumérisme, la frustration.
Mmh. Oui, parce que
le consumérisme et la frustration sont évoqués sur ce titre, Trouble Every Day. Il y a une chanson effectivement écrite au moment des émeutes de Watts, en août 1965, et qui vire le saccage de nombreux commerces, mais surtout la mort de 34 personnes. Mmh. Et son sujet, c'est le déferlement de police qui poursuit une foule venue s'emparer de produits de consommation à l'intérieur d'un hypermarché. Mmh. Au même moment, en France, Guy Debord publie dans International Situationniste, à propos de Watts, le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande, une analyse qui rejoint celle de Zappa sur le fait de vouloir faire un usage immédiat des objets vantés par la propagande du capitalisme et sa publicité de l'abondance. Mais d'autre part, Zappa souligne à plusieurs reprises sur ce disque que le programme de grandes sociétés initié par le président Lyndon Johnson en 1964 avait tout simplement échoué. Et celui qui avait mis en place des mesures pour réduire prétendument la pauvreté découvrait à présent que les pauvres se révoltaient, ce qui fit dire à Martin Luther King que les émeutes de Watts n'étaient pas des émeutes de race, mais des émeutes de classe. Mmh. Autrement dit, il y a un propos chez Zappa qui est aussi un propos résolument orienté d'un point de vue, disons, pratiquement marxiste, bien qu'il ne l'était pas, bien sûr.
Et c'est vrai que souvent, en Europe, on a pris la position de Zappa comme étant une position marxiste. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de conflits aussi avec certains publics qui demandaient à des vraies prises de position politique de la part de Zappa. Mais Zappa, lui, ne s'est jamais encarté. Il y a même des citations où il dit tout simplement « Je me range du côté des conservateurs pragmatiques ». Alors c'est assez fou d'entendre ça de la part d'un auteur aussi dada et aussi, on pourrait dire, presque anarchiste dans sa démarche. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui « conservateur pragmatique » ?
Bah, effectivement, c'est la formule qu'il a utilisée dans son autobiographie, The Real Frank Zappa Book, et qui le définit comme quelqu'un qui, il faut se le rappeler, est un entrepreneur avant tout, qui a une certaine distance par rapport au capitalisme, mais qui sait aussi tirer profit de ce système. Moi, je pense qu'il a sans doute un petit peu exagéré. Je le définirais plutôt comme un esprit libre ou un libre penseur.
Et un libre penseur qui prend des positions aussi face à ses contemporains directs, c'est-à-dire sa génération, et en particulier sur ce culte des apparences et en particulier la culture hippie qu'il exècre au plus haut point. En fait, il est plus freak que hippie.
Tout à fait. Il a d'ailleurs défini sa position des freak out en juin 1966 avec un petit manifeste qui... explique ce qu'est le mouvement de freaking out, où l'on voit bien que s'il peut adopter les vêtements, la liberté vestimentaire des hippies, il se détourne d'une culture qu'il estime totalement hors de propos, superficielle et particulièrement déplacée. Il pense en effet que ce n'est pas en se défonçant qu'on peut résoudre des problèmes politiques, qu'on peut véritablement faire une révolution politique.
Et c'est le sujet même de Plastic People qui ouvre le disque Absolutely Free en 67 et qui commence avec Ladies and Gentlemen.
Ladies and Gentlemen, the President of the United States.
Fellow Americans. Do, do, do.
Do. He's been sick.
Do, do, do.
And I think his wife is going to bring him some chicken soup. Plastic People. It's hard to defend an unpopular policy every once in a while.
Plastic people, oh baby, now you're such a drag.
And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon.
Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo.
Plastic people, oh baby, now you're such a drag. I don't know, sometimes I just get tired of you, honey. It's that's your hairspray or something.
Plastic people, oh baby, you're such a drag.
I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people.
Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself
think we're singing about someone else.
But you're plastic people. Such a drag.
Me seeing neon, moon above. I searched for years, I found no love. I'm sure that love will never be a product of plasticity, a product of plasticity, a product of plasticity.
Plastic people are your foot, your hair, your nose, your arm. You eat, suck,
plastic. No, a prune is not a vegetable. Cabbage is a vegetable. Makes it okay.
Guy Darol, nous écoutions un extrait de Plastic People de l'album Absolutely Free de Frank Zappa and the Mothers of Invention. Et ici, on entend vraiment des textures musicales à l'Edgar Varèse, un moment un peu de Stravinsky. Et puis au tout début, on a une citation de Louis Louis, qui était repris par Iggy Pop à peu près au même moment. Et avec cette idée qu'on peut mélanger tout en même temps pour mettre un texte par-dessus qui serait tout à fait critique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec Zappa, la critique sociétale, la critique politique, passe par l'humour et pourrait peut-être des fois desservir son discours pour quelqu'un qui vivait en France à ce moment-là?
Alors, desservir son discours... Bon, je ne le crois pas. Effectivement, il y a une exploration musicale constante. Mais là, avec Plastic People, on est sur un des thèmes les plus populaires de Richard Berry, Louis Louis. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson peut laisser penser que le cerveau de Zappa est branché sur celui de Debord. Mmh. La mélodie est un détournement. Hein, et un détournement, le détournement étant une des armes critiques préférées des situationnistes, mais les paroles sont en effet une critique du régime des apparences. Mmh. La jeune fille fardée qui déambule sur Sunset Boulevard a toute évidence misé sur la forme plutôt que sur le fond. Elle croise des militants nazis sans leur prêter la moindre attention. Ce n'est pas un être humain, c'est du plastique. Mmh. On peut dire qu'elle a rejoint la horde des gens en plastique, les plastic people, sculptés dans les moules du faux-semblant. Alors, le plastique... Le chrome, ce sont des éléments souvent adoptés par Frank Zappa pour définir de manière critique son rejet des apparences, les apparences s'étant emparées, d'après lui, de toute l'Amérique, celle de l'abondance, celle de la consommation...
Celle de la télé, quoi. Si, c'est parce que dès le départ, même dans le premier morceau qu'on a écouté, qui était Trouble Every Day, il parle de regarder la télé et manger là. C'est-à-dire vraiment comme si on était en train d'ingurgiter tout le temps des informations et de la politique par le biais des médias. Très tôt, il la critique, alors que pourtant, toute sa critique sociale vient de la télé et de ce qu'il regarde dans la télé.
Absolument, c'est un grand spectateur, un grand consommateur de télévision. C'est son poste de lecture préféré du réel, parce qu'on sait bien que Frank Zappa est un grand travailleur. La plupart de son temps, il le consacre à répéter sa musique en studio, à écrire de la musique chez lui à Laurel Canyon, ou à faire le tour du monde à travers des tournées fleuves. Ce qu'il fait, c'est déchiffrer le réel autant que possible en lisant la presse. Je pense qu'il lit beaucoup de presse. Et puis, en auscultant le monde, de manière, en ouvrant grand les yeux, hein, bien sûr, à travers la télévision.
Et à la fois détourné, vous parliez de ça, cette manière situationniste de lire ses contemporains, que ce soit donc la citation de Louis Louis, et là, dans un autre morceau, Flower Punk, où il reprend complètement le concept de Hey Joe, qui était repris à l'époque par Hendrix. En fait, il ne critique pas la musique en tant que telle, il utilise la musique, mais il a quand même une sorte de révérence quand même face à ses contemporains musiciens.
Absolument, oui, c'est effectivement, c'est un adepte du détournement. Il le fera aussi tout à la fin, en 1988, dans sa dernière tournée, en reprenant le répertoire des Beatles, sur lequel il calque des propos qui sont des philippiques contre les télévangélistes.
Un de ses derniers combats, dans les années 80. Alors, je propose d'écouter Flower Punk de We Are Only In It For The Money, un album sorti en 68, qui est une sorte de grand fourre-tout incroyable. Et dans ce Flower Punk, il y a cette fameuse expression « Hey Punk », qui est l'une des premières fois où on voit le mot « punk » utilisé, qui est peut-être à la source de cette grande famille punk qui arrive dans la fin des 70.
Oui, c'est un sujet de réflexion, on peut le dire. C'est en effet la première fois, il me semble, qu'on voit en musique, dans le rock, apparaître ce mot, qui est un mot qui était déjà présent, évidemment, bien avant, un mot d'argot, et que l'on retrouve notamment au cinéma, dans la bouche d'Humphrey Bogart, longtemps avant.
Sauf que là, le punk, il a une fleur dans la main, et Zappa lui pose la question, mais hey punk, qu'est-ce que tu fais avec cette fleur dans la main ?
Frisco to join a psychedelic band. I'm going up to Frisco to join a psychedelic band. Hey, Pop, where you going with that button on your shirt? Hey, Pop, where you going with that button on your shirt? I'm going to the Love Inn to sit and play my bongos in the dirt. I'm going to love in the sick and play my bongos in the dirt. Hey, Pop, where you going with that hair on your head? Hey, Pop, where you going with that hair on your head? I'm going to the dance to get some action, then I'm going home to bed. I'm going to the dance to get some action, then I'm going home to bed.
When my royalty check comes,
when I first got into the rock and roll business,
a Mustang.
Guy Darol, nous écoutions ici Flower Punk de Frank Zappa and the Mothers of Invention. We're Only in It for the Money, c'est le nom de cet album en 68. Et ici, il critique directement l'attitude hippie et puis surtout l'utilisation de drogue qui détourne complètement l'esprit de l'essentiel, c'est-à-dire prendre position. Est-ce que pour lui, tout artiste doit être conscient de sa place dans la société? Et finalement, il a beaucoup aidé d'autres artistes, il a été producteur d'Alice Cooper, d'autres artistes. Est-ce qu'à chaque fois, pour lui, c'était vraiment une manière d'engager aussi une forme de discussion politique, sociale avec ses contemporains?
Mais je crois que ce qui caractérise le regard de Zappa, c'est sa capacité, en tant que freak d'ailleurs, à considérer le monde en temps réel. Et donc ce disque a été publié en mars 1968, mais conçu en 1967, c'est-à-dire au temps du Summer of Love. Oui. Et Zappa n'est pas hippie. Il déteste les hippies qui prétendent changer le monde en se défonçant, en chantant des mantras, en tapant sur des bongos, pendant que les bombes tombent sur le Vietnam.
Et c'est une critique qu'il reprendra très régulièrement, parce que jusque Gregory Peckery, où on entend ce petit cochon qui se retrouve avec des hippies, qui l'enlèvent, enfin, c'est vraiment des personnes qu'il montre toujours du doigt comme étant des sortes de poux d'une société qui n'avance pas,
oui,
finalement.
Tout en y ajoutant, c'est le principe des superpositions, des resynchronisations, de l'overdubbing, disons textuel, tout en rajoutant donc d'autres considérations plus métaphysiques sur qu'est-ce que la conception du temps, puisque Gregory Peckery est ce porc qui a inventé le calendrier. Mais ce qu'il faut dire, donc, pour revenir justement à cette chanson, c'est qu'il ne considère pas que ces chansons vont transformer le monde.
Oui.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle le raconte. Elle le raconte en temps réel et sans forcer le trait, comme on le voit avec Flower Punk, donc qui est un détournement, comme on l'a dit, de Hey Joe, et où il est montré en effet que le STP, qui est une drogue de synthèse hallucinogène, et les Lovin', que l'on pratique évidemment couché, sont les seules réponses des hippies aux émeutes de classe et à la menace de réouverture des camps de concentration que Roosevelt avait fait bâtir en Californie pour interner les citoyens d'origine japonaise après l'attaque de Pearl Harbor. Et si l'on regarde la pochette, qui au passage, il faut le dire, est un pastiche du Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, on voit une note qui précise cette information selon laquelle Ronald Reagan, qui est alors gouverneur de Californie, envisage de regrouper tous les subversifs dans les baraquements où l'on avait entassé plus de 100 000 nippos américains en 1942. Mais pour Zappa, le mouvement hippie n'est qu'une récréation. Il le dira tout au long de son parcours, hein, dans de nombreux entretiens. Le mouvement hippie, c'est le temps de l'extase et de l'assoupissement des consciences avant que les hippies ne se reprennent en main pour devenir les cadres apparemment cool, ouais, de sociétés qui sont efficacement gérées. De hippie, il pourrait bien devenir youpi.
Oui.
Autrement dit, les faire valoir d'un capitalisme cynique poussé à l'extrême. Et ça, on peut dire que Zappa l'a prophétisé.
Oui, parce que c'est le cas de Jerry Rubin, des gens qui étaient des hippies, qui sont devenus des youpies ensuite. Et vraiment,
absolument.
Les cadres, les nouveaux cadres des années 80, à bouffer des gélules au lieu de manger du naturel. On peut dire finalement que Zappa est une sorte de prophète de sa société. Et à travers la radio et la télé, qui ont été des médiums qu'il a beaucoup appréciés, mais qui finalement ont été très peu des diffuseurs de sa musique. Il n'a été quasiment jamais rediffusé à la radio aux États-Unis.
Il était quasiment blacklisté, Frank Zappa, aux États-Unis. Son existence musicale, il la doit principalement à ses tournées à travers l'Europe ou au public européen.
À cette époque-là, est-ce qu'il avait accès à la télé, par exemple ?
Il avait plutôt accès à la presse.
Oui.
La presse, disons, alternative. Parallèle, comme on disait dans les années 1960.
Alors peut-être pour ça qu'il se venge aussi sur ces médiums qu'il mange lui aussi, hein, finalement, en étant un auditeur
et un
télévore. Il se venge avec un morceau en particulier qui s'appelle I Am The Slime sur Overnight Sensation, un disque incroyable de 73. On trouve énormément d'influence du jazz, par exemple. Et dans ce morceau-là, avec Je suis la morve qui sort de la vidéo, où il nous montre vraiment qu'on est des sortes de mangeurs de vidéos et d'informations à nos dépens.
Have you guessed me yet? I'm the slime oozing out from your TV set. You will obey me while I lead you in the garbage that I feed you until the day that we don't need you. Don't go for help, no one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold, and you will do as you are told until the rights to you are sold.
I Am The Slime de Overnight Sensation, un album sorti en 1973. Ici, Frank Zappa prend la voix de cette télé, de ce programme télé, qui est là finalement pour contrôler les esprits. Et on pourrait dire, Guy Darol, que The Torture Never Stops, la torture n'arrête jamais, même si dans un autre contexte, c'est un autre morceau de Frank Zappa. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que la torture n'arrête pas. On est là, on nous inculque des idées et puis un programme réellement politique pour nous contrôler au fur et à mesure. Et ça, il va le garder jusqu'à la fin de sa vie, en 93, cette idée qu'il faut se détaché finalement de ce que le gouvernement essaie de nous balancer.
Absolument. Parce que ce qu'il a de commun d'ailleurs avec Alfred Jarry, c'est un intérêt pour le décervelage. Mmh. Il sait exactement ce qu'est la machine à mâcher les cervelles. C'est la télévision. Et c'est donc le sujet de cette chanson, I'm the slime, je suis la bave, qui explique de quelle façon le gouvernement, en effet, et l'industrie se sont emparés du petit écran pour soumettre les esprits à un contrôle total. La bave qui sointe des postes de télé est destinée à engluer les spectateurs du réel, ou du soi-disant réel, dans le sommeil de l'inaction. Sous le charme des images, le spectateur ne fait plus aucune différence entre information et désinformation. C'est ce qu'il explique véritablement dans cette chanson. Et en effet, la télévision, The Central Scrutinizer dans Joe's Garage, c'est un petit peu une sorte de pendant technologique de Big Brother, en fait, de la dystopie d'Orwell.
Et qu'on va retrouver encore plus marquant, en fait, à l'époque de Reagan, c'est-à-dire dès 1984, lorsque Reagan prend le pouvoir, lui, il s'engage tout de suite dans un contre-pouvoir, dans une sorte de contre-culture, puisque très vite, l'Amérique puritaine va prendre les rênes de ces médias et ce contrôle des médias.
C'est ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, il va se servir de ses disques et de ses tournées pour alerter ses concitoyens des dangers toxiques de leur environnement politique ou industriel. Mais dès le début des années 80, en effet, il va entrer dans une période véritablement d'activisme. Mmh. Il s'oppose d'abord à la nouvelle droite chrétienne et à ses télévangélistes. Puis, il va contrer d'autres menaces, celles qui pèsent sur les libertés d'expression. Après que des femmes de Washington, les épouses de sénateurs et de capitaines d'industrie influents, ont créé le PMRC, qui est une association qui vise à contrôler la musique rock au prétexte que des disques contiennent des propos offensants, pornographiques ou incitant à la violence.
PMRC,
on peut peut-être parler. Donc c'est ça, c'est l'affaire du sticker accord parental souhaité, parole explicite, qui est un message que le PMRC veut imprimer sur les disques de rock au moyen de lettres telles que X pour désigner le sexe, V la violence, D et A la drogue, l'alcool, O les références à l'occulte. Il y a la démonologie. Et en septembre 1985, au mi-temps des années 80, Zappa est convoqué par la commission du Sénat, où il va témoigner contre ce projet de censure, dans un contexte de parodie démocratique, parce que 5 des membres de cette commission sont mariés à des membres du PMRC. Et c'est une bataille qui est perdue d'avance, dont il va faire les frais. Hein, il y a un disque qui s'appelle « Jazz from Hell », qui est barré par le sticker, alors qu'il est entièrement instrumental, mais la réunion de mots comme hell, c'est-à-dire l'enfer, et d'un titre G-Spot Tornado, qui oui. désigne le point G, a suffi à le stigmatiser.
Ouais, et c'est fou, parce que, en fait, on se rend compte que toutes ces catégories, vous disiez X, V, O, correspondent à Zappa. Il revient encore à une sorte de syncrétisme de tout ce que l'Amérique bien-pensante refuse et exècre.
Ah, tout à fait.
Alors, pour juste précision, PMRC, c'est le Parents Music Resource Center qui a fait donc, et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des petits stickers sur les disques de rap hyper violents et qui fait que Eminem a beaucoup vendu parce que.
Oui, c'est-à-dire que l'usage qui en est fait aujourd'hui est avantageusement commercial. À l'époque, il s'agissait de barrer la double montée de la censure sur le rock et celle de la nouvelle droite chrétienne qui va nous amener les télévangélistes qui seront l'objet de son combat le plus ardent jusqu'à sa dernière tournée.
Et ce qui nous rappelle bien aussi l'Amérique que l'on vit aujourd'hui sous Donald Trump.
Bien
et
sûr.
On va écouter ça tout de suite avec When the Lies So Big, un morceau qui réunit toutes ces critiques. C'est dans Broadway the Hard Way, un live de 1988.
Pinch it good. You know, that confinement loaf is real good stuff. Hey, are you on a track?
They got lies so big, they don't make a noise. They tell them so well, like a secret disease that makes you go numb. A big old lie and a flag and a pie and a mom and a Bible. Most folks are just liable to buy any lie, any place, any time. When the lies so big.
C'est sur ce When the Lies So Big de Frank Zappa sur le disque Broadway the Hard Way en 1988 que nous quittons. Merci Guy Darol d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup.
Alors vous êtes donc un auteur, écrivain incroyable autour de Frank Zappa. Donc vous venez de sortir une biographie en novembre 2016 dans l'édition Folio Biographie, vraiment biographie de Frank Zappa. Mais vous avez énormément d'essais édités chez Le Castor Astral, Le Mot et le Reste ou encore Gallimard sur cette cause zappaïenne. Et vous êtes présent sur un DVD qui réunit quantité d'interviews de Frank Zappa sur cette cause politique. Un DVD qui s'appelle Hit That Question, édité aux éditions Blackout. Donc pour tous ceux qui sont intéressés pour cette cause politique de Frank Zappa, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans tous ses ouvrages, car nous n'avons parlé que de tout petits points finalement sur une grande que sur une carrière immense. Par exemple, il a été conseiller de Vaclav Havel et tant de choses qui montrent que Zappa a été engagé du début jusqu'à la fin de sa carrière. Au revoir Guy Darol et merci à France Bleu Brésil. Vous êtes actuellement pour l'enregistrement de cette interview.
Eh bien, au revoir, à bientôt.
Fin de notre dernier épisode du Cri du Patchwork sur la politique. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Alexandre Billard. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, on termine notre troisième année du Cri du Patchwork en compagnie d'un autre génie unique et haut en couleur. J'ai nommé Charlemagne Palestine, que nous recevons pour une interview tout en sing, schling, schping, entre orgue interminable, piano hypnotisant et carillon détonnant. Charlemagne Palestine est au centre d'une exposition qui a lieu en ce moment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et ce jusqu'au 19 novembre prochain. Courez-y, ça envoie du bois. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, Tangalam, 1, Parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, Parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit, il est l'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et son Alain Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.